D'après la sagesse populaire, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Cet adage est un peu cynique, car il revient à dire qu'on ne peut vraiment compter sur personne. C'est une exagération, mais avec un fond de vérité tout de même. L'apôtre Paul, qui connaissait bien la nature humaine, voulait que ceux qui désiraient servir le Seigneur soient tirés sur le volet. Il a d'abord dressé la liste des qualifications requises pour les responsables d'église. Maintenant, il va donner celle pour les diacres. Le mot pour diacre apparaît une centaine de fois dans le Nouveau Testament. Il provient d'un verbe qui signifie servir, accomplir des tâches subalternes, administrer ou même faire respecter la loi. Le diacre est celui qui fait la plonge, mais aussi le comptable du restaurant, la caissière d'un magasin, la serveuse de la cafétéria ou l'hôtesse d'avion. Jésus a utilisé deux fois ce mot quand il a dit « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Le diacre est donc celui qui est au service des autres. Le second usage du mot diacre dans le Nouveau Testament sert à désigner un don spirituel, celui de servir. Quand il y a quelque chose à faire dans l'Église, certaines personnes sont toujours prêtes à monter sur la brèche. J'ai connu des gens comme ça et j'admire leur dévouement. Moi, ce n'est pas que je rechigne à me salir les mains, mais comme me disait mon père, « Mon pauvre Jackie, tu n'es pas très dégourdi de tes 10 doigts. » Troisièmement, le diacre est une position officielle dans l'Église. Le mot est utilisé de cette façon 2 fois dans le Nouveau Testament, ici, et dans l'Épître aux Philippiens. Les diacres sont soumis aux anciens et les aident pour tout ce qui concerne les affaires pratiques de l'Église. Ce sont des exécutants, mais à l'occasion, ils peuvent aussi participer au ministère spirituel avec le pasteur ou les responsables. Les personnes qui ont le don spirituel de servir les autres n'ont pas nécessairement le titre de diacre, mais il est à espérer que ceux qui sont nommés à ce poste possèdent le don. Paul était un diacre, un serviteur dans le sens général du terme, mais son vrai titre était apôtre. Luc, qui est l'auteur du livre des Actes, raconte l'histoire de l'Église depuis son début à la Pentecôte, puis il suit l'apôtre Paul jusqu'en prison à Rome. Mais curieusement, il n'utilise jamais le mot « diacre » alors que celui pour « ancien » revient à plusieurs reprises. Luc raconte qu'à un certain moment, il y eut des tiraillements entre les croyants juifs et ceux d'origine grecque. Sur le conseil des apôtres, les membres de l'Église ont alors choisi 7 hommes pour résoudre les difficultés d'ordre pratique qui se posaient à eux. Ces hommes ont assumé la fonction de diacre, mais sans être nommés ainsi et pour une tâche spécifique limitée dans le temps. À cette époque, les problèmes étaient encore réglés au coup par coup. Mais quand Paul écrit à Timothée, 30 années se sont écoulées depuis la Pentecôte. L'Église s'est développée et les assemblées locales ont mûri au point où il était devenu nécessaire de choisir des diacres. C'étaient des hommes ou des femmes d'un haut niveau de moralité et de spiritualité, et bien sûr, des serviteurs modèles. Pour aider Timothée et Tite à choisir ceux et celles qui avaient le gabarit nécessaire pour assumer cette fonction, Paul dresse la liste de leurs qualifications. Comme pour les anciens, ce qui compte n'est pas tant les tâches qu'ils vont accomplir et qui ne sont d'ailleurs jamais précisées, mais leur caractère. Je continue maintenant à lire dans le chapitre 3 de la première épître de Paul à Timothée. « Il en va de même des diacres. Ils doivent inspirer leur respect, qu'ils soient des hommes de parole, sans penchant pour la boisson ni pour le gain malhonnête. » Verset 8. Le diacre doit inspirer le respect, c'est-à-dire être sérieux dans toute sa conduite. Le mot respect n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament. Sa racine signifie vénérer, adorer. Quelqu'un de sérieux a une présence et communique la majesté de son caractère. En second lieu, le diacre doit être un homme de parole, littéralement qu'il n'ait pas une double langue, c'est-à-dire pas d'hypocrisie. Le diacre, comme l'ancien, doit être intègre, honnête dans ses propos. Il ne faut pas qu'il change son discours en fonction de la personne à qui il parle. Ensuite, le diacre n'est pas buveur, adonné à l'alcool. Et enfin, il ne s'intéresse pas aux biens de ce monde. C'est important parce qu'à cette époque, il était chargé de distribuer l'argent aux veuves, aux orphelins et aux démunis. Il ne fallait donc pas qu'il se laisse tenter et en mette à gauche. Les caisses noires et l'argent détourné ne devraient pas exister dans les églises. Judas était le trésorier des 12 apôtres et il s'est laissé tenter, ce qui l'a conduit au pire, à trahir son maître. Je continue le texte. Ils doivent garder avec une bonne conscience la vérité révélée de la foi. Verset 9. La vérité révélée de la foi est le Nouveau Testament. Sous le régime de l'Ancien Testament, cette vérité était tenue cachée, mais elle est maintenant révélée. Il y a plusieurs vérités spécifiques que dans ses écrits, Paul appelle mystères. Ce sont l'incarnation du Christ, l'unité des croyants juifs et non-juifs, le salut en Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. Ces vérités faisaient partie de l'enseignement fondamental des apôtres et les premiers croyants les buvaient comme de l'eau. Il est écrit qu'ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Les diacres doivent garder la vérité avec une bonne conscience, c'est-à-dire mettre en pratique ce qu'ils disent croire afin de ne pas être des hypocrites et d'être en paix avec eux-mêmes. Vous avez sans aucun doute entendu parler des 7 péchés capitaux qui sont l'avarice, la colère, l'envie, la gourmandise, la luxure, l'orgueil et la paresse. Dans les années 60, un éditorialiste a décidé de les actualiser parce qu'il les trouvait démodés et poussiéreux. La luxure, a-t-il dit, n'avait plus lieu d'être parce que c'était tellement répandu que ça faisait partie de nos us et coutumes. Il l'a donc remplacé par prude. Il a ensuite enlevé l'envie et la paresse qui faisaient moyenâgeux, puis la gourmandise parce que ce n'est pas un problème moral mais médical comme avoir trop de cholestérol. Par contre, il a rajouté l'égoïsme, l'intolérance, l'indifférence, la cruauté et la violence. Il a aussi dit que chaque segment de la société a ses propres critères pour déterminer ce qui constitue un péché et qu'il fallait en tenir compte. Par exemple, pour les jeunes, l'hypocrisie est une faute grave, mais tout casser n'est pas vraiment un problème, sauf s'il s'agit de la nature. Quant aux personnes du troisième âge, il disait que l'excès de bruit et le manque de politesse devraient être réprimandés. Finalement, cet éditorialiste a conclu son article en disant que ces changements étaient nécessaires si on voulait que le péché conserve sa fonction morale. Ce relativisme dans le domaine moral est désolant. Quelles que soient mes préférences, la notion de péché n'est pas de la pâte à modeler que je peux changer à mon gré parce qu'elle est calquée sur le caractère inaltérable et éternel de Dieu. Notre nature mauvaise est la même que celle de nos premiers parents, Adam et Ève, et ce que Dieu considérait alors comme un péché l'est toujours aujourd'hui. Et si quelque chose a évolué, ce sont les exigences de Dieu qui sont plus sévères sous le régime de la grâce parce qu'il s'est totalement révélé à nous en Jésus-Christ. Les membres de l'Église et surtout ses dirigeants, les anciens et les diacres, sont tenus de se plier à toutes les exigences morales et spirituelles de la parole de Dieu. Je continue le texte. Il faut aussi que les diacres soient d'abord mis à l'épreuve. Ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils accompliront leur service. Il en va de même pour les femmes diacres. Elles doivent inspirer le respect, qu'elles ne soient pas médisantes, qu'elles soient maîtresses d'elles-mêmes et dignes de confiance dans tous les domaines. Que les diacres soient des maris fidèles, qu'ils assument bien leurs responsabilités à l'égard de leurs enfants et de leur famille. Versets 10 à 12. Le diacre n'a pas le même rôle dans l'assemblée que l'ancien, mais les exigences morales et spirituelles sont les mêmes pour l'un comme pour l'autre. Quant aux diaconesses, il faut qu'elles soient sérieuses. C'est le même mot que pour les diacres. Deuxièmement, le texte dit littéralement qu'elles doivent être non diaboliques. Ça veut dire qu'elles doivent contrôler leur langue et ne pas médire. Troisièmement, il faut aussi que les femmes diacres soient maîtresses d'elles-mêmes. C'est aussi ce qui est demandé des anciens. Littéralement, le mot signifie qui n'est pas à donner au vin, mais il était utilisé comme métaphore pour dire être vigilant, avoir l'esprit clair. Enfin, les diaconesses doivent être fidèles en tout, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir compter sur elles. Maintenant, je continue le texte. Car ceux qui remplissent bien leur ministère acquièrent une situation respectée et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Verset 13. Deux récompenses attendent ceux et celles qui remplissent bien leur diaconat. Premièrement, ils seront honorés. Ils jouiront du respect des autres et seront mis sur un piédestal. Ce n'est pas de l'orgueil, car ils ne recherchent pas ce genre de gloire. Ils ne veulent pas occuper une position supérieure aux autres membres de l'Assemblée, mais elle leur est accordée d'office, pourrait-on dire, parce qu'ils en sont dignes. De toute façon, la considération vaut bien mieux que le mépris, ne serait-ce que parce qu'elle permet d'influencer les croyants à marcher dans la bonne voie. Dans plusieurs passages des Écritures, il est dit que ceux qui servent Dieu en toute humilité seront honorés par lui et par l'Église. Deuxièmement, ceux qui remplissent bien leurs devoirs verront Dieu agir au travers de leur ministère. Confortés, ils auront une plus grande confiance en lui, ce qui leur permettra de marcher encore plus par la foi. Je continue le texte. « Bien que j'avais espéré venir plus tôt, je t'écris tout cela afin que, si j'étais encore retardé, tu saches, en attendant, comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église du Dieu vivant. » Versets 14 et 15. Quand Paul dit « Je t'écris », c'est pour donner la raison première qui l'a motivé à rédiger cette lettre. De ce fait, afin que tu saches comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, peut être considéré comme le thème de l'épître, surtout que celle-ci traite justement la façon dont une communauté chrétienne doit fonctionner. Comme il apparaissait de plus en plus clairement à l'apôtre que son retour à Éphèse allait être retardé, voire même compromis, il a écrit cette épître. Nous ne savons pas si Paul a pu retourner à Éphèse avant son second emprisonnement. Par contre, nous savons qu'il a écrit à Timothée et à Tite à peu près au même moment. Or, à ce dernier, il dit son intention de passer l'hiver à Nicopolis, une ville située à l'ouest de la Macédoine où il se trouvait, alors qu'Éphèse était à l'est. L'apôtre voulait que Timothée sache comment on doit se comporter dans l'Église. Le verbe « sache » n'exprime pas un savoir intellectuel et cérébral, mais une connaissance pratique, une compétence. « On doit se comporter » est un infinitif présent qui exprime une action continuelle. Paul dit en substance « Je t'écris, afin que tu aies la compétence voulue pour guider les membres de l'Église dans la façon dont ils doivent mener leur vie quotidienne dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église du Dieu vivant. » Ce passage indique très clairement ici que l'Église universelle appartient à Dieu. Non seulement elle n'est pas une institution humaine, mais l'Église est la famille de Dieu. Depuis la Pentecôte, il y a presque 2000 ans, Dieu a une famille. Auparavant, il n'en avait pas. Moi, je trouve ça tout à fait extraordinaire. Aux anciens de l'Assemblée d'Éphèse, Paul dit que l'Église appartient à Dieu parce qu'il l'a achetée avec son propre sang. Je continue maintenant le texte. Cette Église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. Verset 15. Le mot « colonne » n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament. Il désigne les fondations sur lesquelles un bâtiment est construit. L'Église est le fondement, le support de la vérité. Cette métaphore est peut-être intéressante pour nous, mais pour les Éphésiens, elle était très parlante. En effet, dans leur ville se trouvait le temple de Diane, aussi appelé Artémis, qui était l'une des sept merveilles du monde antique. Or, il était supporté par 127 colonnes de marbre, dont certaines étaient incrustées de pierres précieuses et recouvertes d'or. Elles étaient toutes offertes par différents rois qui rendaient ainsi hommage à la déesse. Tout comme les fondations du temple de Diane soutenaient les fausses religions païennes, l'Église témoigne de la vérité de Dieu au monde. C'est sa mission et sa raison d'être. Sous l'Ancienne Alliance, c'était Israël qui était le témoin de la vérité de l'Éternel, mais ayant failli à son devoir, la nation a été mise de côté pour l'instant. La vérité dont parle Paul ici est la révélation de Dieu dans les textes sacrés, y compris le contenu de la foi chrétienne. Par leur façon de vivre, les croyants sont appelés à proclamer la vérité de Dieu. Mais ce n'est pas celui qui se balade avec la plus grosse Bible qui est le meilleur témoin pour Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique. Je finis le chapitre 3. Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand le mystère de la piété, le Christ qui fait l'objet de notre foi. Il s'est révélé comme un être humain et, déclaré juste par le Saint-Esprit, il a été vu par les anges, il a été proclamé parmi les nations, on a cru en lui dans le monde entier, il a été élevé dans la gloire. Verset 16. Les textes sacrés se composent de 66 livres, plus ou moins longs, et mis bout à bout, ils représentent un ouvrage imposant. Alors on peut se demander quelle est, de toutes les vérités qu'il contient, celle que l'Église devrait plus particulièrement proclamer. Paul nous donne ici la réponse. Dans ces 6 petites phrases qui constituaient sans doute une doxologie et un hymne de l'Église primitive. C'est assez évident quand on considère que ce passage est structuré afin de lui donner un rythme. Les mots se répondent deux à deux. Être humain à Saint-Esprit, ange à nation, monde à gloire. Et puis, comme les 6 verbes du texte sont tous à la troisième personne du singulier du même temps, ils se terminent avec la même sonorité comme pour un poème. Paul commence par dire « nous reconnaissons ensemble ». Ce verbe qui signifie « dire la même chose » a donné « homologue » en français. Tous les croyants sont unanimes pour dire que cette confession de foi est la vérité et représente leur intime conviction. Il est grand le mystère de la piété. Nous avons déjà rencontré le mot « eusébeia » traduit ici par « piété » et qui a donné le prénom « Eusèbe ». Le mystère de la piété représente d'une part la personne du Christ qui fut la révélation de la perfection de Dieu et d'autre part l'ensemble des croyants qui, ayant placé leur foi en Jésus-Christ, ont le désir de vivre d'une manière pieuse en demeurant attachés à Dieu. Le Christ qui fait l'objet de notre foi a été révélé, c'est-à-dire rendu visible, ce qui confirme sa préexistence. De son état de Dieu invisible, il a fait une apparition visible en prenant un corps de chair et en prenant sur lui la condition humaine. L'apôtre Jean écrit « La parole était Dieu. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. » Tout comme l'Éternel n'était pas visible aux Juifs, bien qu'il habitait au milieu d'eux dans le coffre sacré, quand Jésus, en tant que seconde personne de la Trinité, est venu sur terre, sa véritable identité était voilée, cachée dans un corps humain. Bien qu'il fût le Créateur Tout-Puissant, il devint un bébé totalement dépendant de ses parents. Dieu, manifesté en chair, était pauvre. Il fut tenté, éprouvé, et il versa même des larmes. À cause de son humanité et de la mauvaise foi flagrante des chefs juifs, on ne l'a pas reconnu et on l'a haï, maltraité et finalement assassiné. En second lieu, le Christ a été déclaré juste par le Saint-Esprit. Il est écrit de lui qu'il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs, et qu'il a été élevé plus haut que les cieux. Fin de citation. C'est par la résurrection que Jésus-Christ a prouvé qu'il était parfaitement et absolument juste. Il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts, dit un autre texte. Troisièmement, Jésus fut vu et observé par les anges. Ils étaient effectivement présents tout au long de son ministère, depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection. Quatrièmement, Jésus a été proclamé aux nations. Il a dit à ses disciples, « Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Et juste avant son ascension, il a dit à ses disciples, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Dès la Pentecôte, la personne du Christ constitua le cœur de la prédication de tous les apôtres. Cinquièmement, Jésus a été cru dans le monde entier. Effectivement, on trouve aujourd'hui des croyants partout dans le monde. Enfin, il a été élevé dans la gloire. Un passage dit qu'il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Au-dessus de l'entrée d'une vieille chapelle étaient gravés les mots « Nous prêchons Jésus-Christ crucifié ». Avec le temps, du lierre a recouvert le mot « crucifié », mais il restait encore « Nous prêchons Jésus-Christ ». Mais le lierre a aussi recouvert « Jésus-Christ » et on ne pouvait plus lire que « Nous prêchons ». Finalement, tout a été recouvert sous le lierre et cette assemblée a également disparu. Tel est le sort des églises qui n'annoncent pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ.